tous, comme c'est d'usage, à tous et à toutes d'ailleurs, puisque vous êtes majoritaires, heureux. Et donc aujourd'hui, on accueille effectivement donc Ariel Kolonomos. Donc je vais vous faire une petite présentation à la fois de la personne, on va dire, et puis de ses, surtout dans la perspective évidemment de ses travaux, puisque c'est un chercheur. Donc c'est quelqu'un qui a une particularité quand même intéressante, c'est l'interdisciplinarité, on va dire, hein, dans son approche. On en discutait là en aparté. Il est à la fois diplômé de Sciences Po, de Paris Dauphine en éco-gestion et de Paris Nanterre en philosophie. Donc vous voyez, Sciences Po, éco-gestion, philosophie, quand même, hein, ça permet d'aborder les objets, les phénomènes avec quand même un regard assez panoramique. Et finalement, sa thèse, puisque je me suis intéressé, je suis remonté quand même, hein, jusqu'à l'acte de fondation. Donc la thèse qui a été soutenue en 1996 sous la direction de Bertrand Badie, donc en sciences politiques, s'intitulait « Privatisation de la politique étrangère et publicisation du religieux des réseaux évangéliques en Amérique latine », avec là une séquence historique, pour le coup, puisque c'est 1974-1995, donc deux décennies, hein, pour cette étude. Donc déjà, finalement, hein, la question du temps qui devait nécessairement se retrouver dans ces travaux. Aujourd'hui, donc, Ariel Kolonomos est directeur de recherche au CNRS, enfin, dans une UMR, en fait, qui s'appelle le CERI, c'est-à-dire le Centre d'études et de recherche internationale, qui a une double tutelle, hein, puisque c'est, si je ne m'abuse, c'est Sciences Po et CNRS, si je ne me trompe pas.
Oui, enfin, notre labo est affilié, voilà, à Sciences Po, et c'est un laboratoire.
Mais comme c'est une UMR, donc voilà, c'est exactement ça. Donc ça fait une forme de double rattachement, en quelque sorte, et avec pour spécialité, finalement, le rôle des idées prédictives internationales et leur capacité normative et performative. J'ai repris évidemment la présentation générale, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu donc des recherches en fin de compte assez variées, puisque vous avez par exemple publié un livre en 2005 sur la morale dans les relations internationales, Rendre des comptes, hein, qui d'ailleurs a été traduit en anglais. Cet ouvrage abordait déjà la question du temps, puisque vous abordiez finalement la question de la repentance, des réparations, de la réconciliation. Donc déjà, la question du temps était présente, hein, dans ce livre également de 2005. Toujours, alors là, par contre, vous avez traité de toute autre chose, c'est-à-dire en fait de l'usage préventif de la force dans un autre livre de 2009, Le pari de la guerre, guerre préventive, guerre juste, avec un point d'interrogation, hein, donc avec cette notion de pari, hein, et d'aléa. Je pense que ça, c'est un élément aussi, l'aléa, qui est assez présent, hein, dans votre livre, puisque vous dénoncez, si on peut dire, la stabilité, hein, des prédictions actuelles, hein, par rapport, c'est-à-dire finalement, en gros, le présent se reproduit, c'est un petit peu ça. Donc vous êtes au contraire dans une vision peut-être qui insiste davantage sur les ruptures et sur des bifurcations dans les trajectoires. Donc là encore, en tout cas, sur cette guerre préventive, nécessairement, on est encore dans des temporalité, hein, on voit bien la question du temps dans la prévention, finalement, qui est liée à cela, et que l'on retrouve donc dans ce livre qui paraît aujourd'hui aux éditions Albin Michel dans la Bibliothèque des Idées, dont le titre est d'ailleurs très intéressant dans son... on voit l'interdisciplinarité là aussi, puisque finalement on a la politique des oracles, raconter le futur aujourd'hui, hein, déjà on voit là, le rapport au temps, futur et aujourd'hui, ça c'est quelque chose aussi, raconter le futur aujourd'hui, la notion de récit aussi, ça c'est quelque chose, je crois, de très important, et puis bien sûr tout ça étant dans une perspective politique, hein, puisque là il s'agit d'un spécialiste des relations internationales. Voilà, donc cet ouvrage finalement permet d'aborder ces récits du futur et de voir comment on les produit dans le présent et quelle rétroaction d'une certaine façon, c'est-à-dire comment ces récits, par le futur qu'ils évoquent, agissent aussi d'une certaine façon sur le présent. Voilà, donc il y a une boucle à un moment donné qui se forme. Donc peut-être pour commencer l'entretien, peut-on démarrer avec le mot oracle d'une certaine façon et voir les contextes continuité, puisque c'est ça que vous faites aussi, c'est-à-dire vous montrez bien les continuités historiques dès le début de l'ouvrage, et vous parlez des oracles dans la période donc antique, pour les comparer peut-être aux oracles actuels, à ces prédictions sur le futur qui concernent les relations internationales, au sens large, que ce soit d'ailleurs sur les questions, disons, de la force ou des relations internationales au sens strict des nations, mais aussi dans le domaine, par exemple, financier. Vous avez des analyses sur la notation financière particulièrement, et la question du risque aussi qu'il y a d'une certaine façon derrière. Donc peut-être pourriez-vous commencer en comparant, disons, la version antique, la version contemporaine de ces oracles.
Ah oui, tout d'abord, je vous remercie beaucoup de cette présentation et de votre intérêt pour mon travail et de cette invitation, bien sûr, et de votre présence. Et alors, mon travail porte sur les questions contemporaines. Et ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est de voir quel est le rôle du futur, quelle est son incidence sur la réalité dans laquelle nous vivons, et quels sont ses effets sur la politique internationale. Et en même temps, donc c'est un livre qui interroge la fonction politique du futur. Et c'est vrai que lorsque l'on pense au futur et à la politique, l'Antiquité est une période à laquelle on ne peut pas s'empêcher de penser, justement. On ne peut pas s'empêcher de rapprocher, justement, cette question du futur et de la prédiction de ce moment si particulier où les oracles avaient un rôle dans la cité. Le premier chapitre de ce livre, c'est une synthèse. Donc, ce n'est pas du tout un travail de première main, parce que je ne suis pas un historien de l'Antiquité, mais c'est une synthèse du rôle politique des oracles dans la Grèce antique ou à Rome. Et ça, pour moi, c'était plutôt une surprise. Je me suis rendu compte du fait qu'il y avait une ressemblance qui est assez importante entre cette période historique aussi éloignée et aussi étrangère, notamment à notre forme de rationalité, parce qu'un oracle ou un aruspice, c'est quelqu'un qui pouvait vous dire qu'il y aura une guerre parce que les hirondelles volaient assez bas. C'est cette forme de rationalité-là qui n'est pas la nôtre, enfin, en tout cas, ce n'est pas celle qui est communément partagée aujourd'hui. Et en même temps, au-delà de cette différence très importante, bien sûr, il y a une similarité en fait, entre ces deux périodes de l'histoire, la nôtre et cette période si éloignée. La relation qu'entretiennent les personnes qui sont censées savoir, qui sont censées avoir un point de vue éclairé sur le futur, les prédicteurs ou ceux auxquels une demande est adressée, et ceux auxquels ce savoir est destiné, les politiques. Et ce qui est frappant dans l'histoire de l'Antiquité, c'est de voir que déjà, justement, en Grèce et à Rome, dans d'autres civilisations également, chez les Étrusques, cette question politique du futur était posée, c'est-à-dire que les gouvernants étaient extrêmement conscients de l'importance qu'avait la parole du futur dans le gouvernement de la cité. Le futur était important pour prendre des décisions, mais le futur était important pour justifier ces décisions. Et encore plus significatif, le futur est important parce qu'il peut créer de la cohésion au sein d'un groupe. Il rassure. Nous sommes d'accord aujourd'hui pour que demain à Bordeaux, il n'y aura pas de guerre parce que vous êtes protégés par la police, par le maire ou que sais-je, ça va vous unir. Si en revanche, plusieurs personnes font irruption dans la salle, et ce sont les personnes auxquelles vous avez tendance à accorder du crédit, et elles vous disent non, mais demain il y aura une météorite qui va s'abattre sur Bordeaux, une autre personne qui dit mais voilà, demain il y aura une guerre, demain il y aura un tsunami, cela crée du désordre. parce que vous ne savez plus finalement qui écouter. Et vous aurez une multiplicité d'avis. Et pour un gouvernant et pour une société, cela peut être perturbateur. Et justement, enfin, les Grecs et les Romains étaient conscients du fait qu'il fallait institutionnaliser la parole du futur et donc créer des institutions qui pourraient donner un avis sur le futur politique, sur les grandes questions comme les guerres, notamment. Et ils étaient conscients d'une chose, on le voit chez Cicéron notamment, c'est que si eh bien, cette parole n'est pas institutionnalisée, eh bien ensuite, cela veut dire qu'il y aura des personnes qui vont fonctionner en électron libre et chacun aura un avis différent. Et cette multiplicité d'avis, elle peut avoir un effet négatif, c'est justement de créer de la zizanie. D'où le pouvoir politique qui se met à avoir des relations avec ceux qui sont institués dans cette parole du futur, à la place de ceux qui savent. Et aujourd'hui, il en est considérablement de même. Les États tiennent à avoir des interlocuteurs chez ceux qui peuvent avoir un avis sur ce qui va se passer demain. Et c'est pour ça que, eh bien, il y a des groupes d'experts, il y a des think tanks, il y a des agences de notation, il y a des communautés. La communauté à laquelle j'appartiens, la communauté des sciences sociales, eh bien, elle est divisée en toutes sortes de sous-communautés. Enfin, mais vous aurez eh bien, des spécialistes du monde arabe, vous aurez des spécialistes de l'écologie, vous aurez des spécialistes de la finance. Et ces groupes ont une vie. Et cette vie elle tient au partage des idées au sein de cette communauté. Et cette communauté parle de futurs possibles. Et lorsque vous êtes un gouvernant, vous avez besoin de vous adresser à ce groupe. Alors en même temps, dans ce livre, je montre les effets justement de cet équilibre si particulier entre une personne qui est censée savoir, qui produit un discours qui est assez conservateur, c'est-à-dire qui varie peu. Les futurs sont plutôt linéaires, sont plutôt stables, et un État qui a besoin justement de cette stabilité-là. Parce que si, voilà, mettez-vous à la place justement d'un homme politique, une personne qui doit prendre des décisions, si il est confronté à des institutions qui chaque jour lui donnent un avis différent, cela va le perturber. Et si c'est un paradoxe, enfin si ces futurs, ces paroles du futur, c'est-à-dire ce qu'on lui dit, ce qui va se passer dans un an, dans 2 ans ou dans 10 ans. Si ces paroles du futur sont très précises, elles contraignent aussi sa marge de manœuvre. Parce que si on vous dit, mais voilà, dans 2 ans, il y aura une guerre contre votre voisin, donc si vous, soit vous ne prenez pas vos devants, soit vous ne changez pas d'orientation de politique étrangère, eh bien à ce moment-là, vous êtes un irresponsable parce que vous allez subir la guerre contre vous. Eh bien à ce moment-là, si cette guerre se produit et que vous n'avez rien fait, vous êtes responsable parce qu'on vous l'aura dit. Donc d'une certaine manière, la prédiction dans l'élaboration des futurs n'est pas nécessairement quelque chose qui est si recherché. Et pour moi, c'était plutôt une surprise, parce que a priori, finalement, on pourrait croire qu'un homme politique ou un État veut avoir des instruments de prédiction extrêmement précis. Or, en fait, en tout cas dans mon expérience, d'après ce que j'ai vu dans ma recherche empirique, enfin tout simplement, je remarque une chose, c'est que le pouvoir politique se contente très très bien d'une production de futur qui est très approximative, parce qu'il lui donne une marge de manœuvre importante. Et tout le monde est content. En fait, c'est pour ça que ce qui m'intéressait dans le rapport entre justement l'empereur et les oracles, etc., c'est de voir finalement pourquoi cette relation se maintient de cette manière-là. Et chacun y trouve son compte. C'est-à-dire que pour un expert ou pour une institution, le fait de savoir qu'une parole très approximative qui demande finalement assez peu d'efforts sera bien acceptée, c'est rassurant. Et aussi, une parole approximative permet justement de ne pas être trop critiquée, parce que plus vous êtes vague, eh bien, moins vous vous exposez à la critique, alors même que si vous êtes très précis, eh bien, à ce moment-là, on pourra vous dire qu'il y a un décalage trop important entre ce que vous avez dit et ce qui s'est passé. Et donc, c'est finalement une situation qui est assez confortable. Et de l'autre côté, le confort de cette relation, c'est justement de pouvoir avoir finalement une certaine marge de manœuvre dans l'action, de ne pas être déstabilisé dans ses croyances. Chacun se rassure. Et à mon avis, c'est la seule façon qui permet de comprendre pourquoi ce système tient aussi bien. Et pourquoi ce système est assez peu critiqué. Par exemple, les gouvernants se plaignent très peu d'un défaut de savoir en matière d'anticipation. Ils ne diront jamais à leurs conseillers, mais voilà, enfin, vous vous êtes massivement trompé, je vais vous renvoyer, ou que sais-je. Ça arrive très peu souvent. Ce qui est très surprenant, c'est de faire aussi l'histoire, justement, enfin, de ces futurs énoncés, et de voir que les personnes qui, justement, il n'est pas question ici de dire qu'il y a des futurs vrais ou des futurs faux. Le critère est différent, à mon avis. Ce serait plutôt en termes de véracité que de vérité. Mais quand ce que vous dites est trop éloigné, lorsque votre monde possible est trop éloigné du monde réalisé, eh bien, vous pouvez être critiqué à juste titre. Je prends l'exemple dans mon livre d'une personne qui est un expert du monde arabe, très reconnu aux États-Unis, et qui avait écrit un livre avant la guerre de 2003 en disant que cette guerre allait vraiment bénéficier aux États-Unis et que les États-Unis seraient accueillis comme un libérateur en Irak et que toute la politique étrangère au Moyen-Orient serait modifiée au profit des États-Unis. C'était une guerre qui était dans l'intérêt des États-Unis et que ses conséquences futures pour les États-Unis seraient bonnes. Il est possible de montrer que ce monde possible ne correspond pas tellement au monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et pourtant, cette personne ce n'est pas tellement qu'elle n'a pas été critiquée, c'est un paradoxe. En fait, cette personne a ensuite donné un entretien dans un journal pour expliquer qu'en effet, il avait fait preuve d'un manque de clairvoyance. Mais au lieu d'être critiqué pour cela, finalement, quand même, ce qui circulait, c'était l'idée que c'était quelqu'un d'extrêmement courageux parce qu'il avait reconnu qu'il avait mal vu le futur, qu'il avait fait des anticipations de mauvaise qualité. Il n'y a aucune sanction réputationnelle. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Si demain, eh bien, et ce qui se passe ne correspond pas du tout à ce que vous avez annoncé, vous ne serez jamais inquiété. Donc c'est une situation de grand confort pour tout le monde. Mais ensuite, il faut voir quels sont les effets justement de cette relation, de cet équilibre. Dans ce livre, ce que je montre, c'est que ce type d'équilibre entre ceux qui sont censés savoir et ceux qui sont censés agir, il a des effets temporels. L'hypothèse en traitant justement cette question des futurs était de me dire que les futurs avaient un potentiel d'accélération de la réalisation de ces mondes possibles. C'est-à-dire que, voilà, on peut prendre un exemple très simple. Admettons que nous ayons tous de l'argent déposé à la même banque et quelqu'un rentre et voilà, il veut écouter la conférence, mais en même temps, il veut nous dire quelque chose. Il veut nous dire que, voilà, cette banque où nous avons déposé nos économies va faire faillite. Et nous avons tendance à le croire. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que l'on ferait? Malheureusement, enfin, nous sortirions tous de la salle et nous irions retirer l'argent. C'est vrai qu'il est 6h30, c'est fermé, mais enfin, en tout cas, on camperait devant la banque pour être les premiers à retirer l'argent. Et que se passerait-il? La banque fera faillite. C'est la prophétie autoréalisatrice. Peu importe si la personne avait donné une nouvelle qui était finalement une simple vue de l'esprit ou qui manquait justement de véracité. Peu importe, même si l'information n'était pas bonne, eh bien, l'effet provoqué est la faillite de la banque, c'est-à-dire la réalisation de ce qu'il avait dit. Donc, il y a un effet d'accélération du cours des choses. Et en fait, ce que je remarque dans ce que j'ai étudié, enfin, des cas de politique internationale, la relation avec l'Union, entre les États-Unis et l'Union soviétique, les agences de notation financière, eh bien, c'est que ces prédictions très stables et linéaires, elles retardent les futurs, elles étirent le présent. Vous maintenez en l'état un mode de relation politique ou des économies. Si vous êtes une agence de notation financière les agences de notation financière notent des États ou des entreprises. Pour les États, plus d'une centaine. Il y a trois grandes agences de notation, puis après, il y en a des plus petites, mais les trois principales notent plus de 100 États. Et c'est comme un professeur qui note des notes. Et donc, ces États sont surveillés d'une certaine manière. Mais ce qui est frappant, c'est malgré le fait que les économies sont très fluctuantes, qu'il y a des nouvelles économiques chaque jour, des nouvelles politiques qui affectent l'économie et la finance, en fait, très peu de notes sont modifiées. 10%, entre 10 et 15%, plutôt 10% des notes, 1 sur 10. Ça veut dire qu'il y a très peu de modifications de ces notes. Et donc, il y a une préférence pour la stabilité. On ne veut pas créer d'à-coups. Et que se passe-t-il si vous... Le problème, c'est que dans la presse, on présente toujours les agents de notation comme finalement des gens qui jouent avec le feu et qui changent très souvent les notes et surtout qui les dégradent. Parce qu'on parle toujours finalement des modifications des notes lorsque les États sont pas contents parce que leur note a été baissée. En France, par exemple, notre ancien président s'était ému du fait que la note de la France avait baissé. Tous les présidents du monde ont la même réaction. En général, ils ne sont pas contents. Enfin. Mais ce qui se passe, c'est que ces baisses, finalement, ne sont pas la norme. La norme, c'est plutôt de maintenir un certain cap. Pour une raison aussi, c'est que si vous changez d'avis, eh bien, tous les jours, vous êtes peu crédible. Est-ce que si vous avez une personne en qui vous avez confiance et qui chaque jour vous dit une chose différente, à un certain moment, vous ne lui faites plus confiance. Alors que si vous maintenez un certain cap, cela veut dire que vous êtes cohérent avec vous-même. Il y a d'autres raisons économiques pour lesquelles cette stabilité existe, c'est que les agences de notation vendent ces notes à des banques. Et les banques ont besoin de référentiels qu'ils sont stables. Sinon, la banque ne peut pas dire à son client chaque jour « Ah, mais attention, finalement, ce que je vous ai vendu hier, finalement, c'est très risqué. » Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une stabilité pour vendre ses produits financiers. Mais quels sont les effets ? Les effets, c'est de maintenir des statu quo. Parce que si, vous considérez que, finalement, l'Indonésie ne va pas trop mal, et vous lui donnez une note justement qui l'a fait se placer dans un domaine qui est plutôt sécuritaire, c'est un investissement fiable. Mais vous voyez que quand même ce pays, j'ai pris l'Indonésie tout à fait au hasard, eh bien vous voyez que quand même ce pays, il y a des nuages qui se profilent à l'horizon, enfin il y a certains indicateurs qui montrent que finalement les choses sont plus compliquées que ça. Eh bien, vous décidez de ne pas en tenir compte parce que vous ne voulez justement maintenir un certain cap. Mais que se passe-t-il ? Eh bien, à ce moment-là, l'argent continue d'affluer en Indonésie. Le coût du crédit de ces obligations indonésiennes, finalement, n'est pas très élevé. Et les choses perdurent. Et donc, le présent s'étire. Jusqu'au moment où la réalité, évidemment, nous rattrape, et à ce moment-là, la chute est brusque. Mais en attendant, ce futur a retardé des événements. Et c'est là, à mon avis, cet effet très paradoxal du futur. On attendrait de la part de quelqu'un qui nous parle du futur, qui nous parle de changement. Et en fait, c'est plutôt l'inverse. Les personnes qui parlent du futur vous disent, mais voilà, finalement... Bon, enfin, c'est un régime politique, par exemple. Eh bien, l'Union soviétique, c'est à mon avis le cas le plus frappant. Et c'est ce qui m'a fait prendre conscience de cet aspect de cette question. C'est le milieu de la soviétologie pendant la guerre froide. Pendant de 1945 jusqu'aux années 90, des milliers de mes collègues étaient employés à étudier l'Union soviétique. Et quand une demande leur était adressée de la part de l'extérieur de l'université, mais aussi entre eux ou de la part du pouvoir politique. La demande, c'était est-ce que l'Union soviétique va durer ? C'était ça la grande question de la guerre froide. Est-ce que l'Union soviétique est forte? Et ce qui est très intéressant et très frappant dans cette, communauté, dans cette histoire de ces futurs de l'Union soviétique, c'est de voir qu'il y avait un très très grand consensus autour de l'idée suivant laquelle l'Union soviétique était là pour durer. Mais cela jusqu'au milieu des années 80, voire même jusqu'à la fin des années 80. Et il y avait cette idée que finalement, certes, l'Union soviétique avait ses faiblesses, notamment économiques, mais que sa force politique était telle qu'elle était complètement résiliente. Elle pouvait résister justement à un certain nombre de problèmes, notamment des problèmes économiques. Et donc, dans cette communauté, ce qu'on voit, ce sont des consensus. Alors, bien sûr, il y a eu quelques personnes, des cas isolés, de personnes qui ont pu dire, en France, par exemple, c'est peut-être une raison de s'en enorgueillir, enfin, Emmanuel Todd, un démographe qui, pendant les années 70, avait dit, voilà, l'Union soviétique va s'effondrer à un certain moment, en prenant comme étalon de mesure la démographie. Mais ce qui est je prends cet exemple à dessein, parce que, justement, finalement, c'est un non-expert de la question, qui a eu un avis plus éclairé qu'un expert. Et ça, il y a des expériences qui ont été faites, et pour moi, enfin, c'est très déroutant, parce qu'après tout, je devrais avoir une expertise en matière de sciences sociales, mais bon, et il y a des expériences qui ont été faites et qui montrent que un groupe de non-experts a un avis plus éclairé en matière d'anticipation qu'un expert. Vous, si vous mettez vos intelligences en commun, vous aurez, suivant cette étude, vous aurez un avis plus éclairé qu'une personne qui a étudié cette question-là pendant 20 ou 30 ans. Parce que cette personne-là a des biais très importants qui lui font regarder cette question toujours de la même manière. Elle va changer très peu sa façon de voir les choses. Votre regard neuf, ce ne sera pas uniquement la chance du débutant, mais votre regard neuf, si vous vous informez, etc., etc., si aussi, eh bien, il y a une agrégation de ces avis, eh bien, il y a des chances pour que, enfin, vous ne serez pas nécessairement moins bon, voire même, vous aurez un avis plus juste, enfin, en tout cas, qui donnera une anticipation qui peut-être ressemblera davantage à la réalité que ce qu'avait dit. Ce qu'avait dit l'expert. Il y a des expériences qui sont faites aujourd'hui, et notamment enfin, avec Internet, il y a des sites qui permettent à tout un chacun justement de faire des paris sur le futur. C'est le principe du bookmaking, tout simplement. Et donc, il y a des sites qui permettent à une personne voilà, de se prononcer sur le futur de la Syrie. Une question est ouverte. Est-ce que El-Assad sera au pouvoir le 31 décembre 2014? Oui ou non? Et vous pouvez parier de l'argent même. Et l'agrégation de ces paris donne un pourcentage. C'est la valeur de l'action, comme si vous allez parier aux courses. Et ce pourcentage est un indicateur de la réalisation de tel événement. Et certaines personnes considèrent que cette démarche-là, qui justement fait appel à des non-experts, elle est peut-être, elle donne des résultats meilleurs qu'une personne qui a étudié la Syrie pendant 30 ans. Et alors, évidemment, du point de vue du savoir universitaire, c'est un constat peut-être un peu désabusé, mais en même temps, c'est plutôt encourageant si l'on pense à la valeur de l'intelligence, justement. Enfin, et à la capacité que pourraient avoir les individus de rassembler leurs connaissances et de produire un savoir de qualité. Et ça fait partie de notre vie en démocratie. Dans mon livre aussi, ce que je veux dire, c'est que les espaces des futurs sont des espaces qui sont des monopoles, des rentes, enfin, finalement. Si vous êtes un expert du monde arabe, vous savez que votre fonds de commerce, ça va être justement la parole sur le futur du monde arabe, comme la soviétologie, comme les relations internationales. Enfin, ça fait partie de l'utilité sociale du savant, enfin, ou de l'universitaire, ou du spécialiste dans un think tank. Mais à mon sens, justement, en raison de ce rapport si particulier entre justement le savoir et le pouvoir, cet équilibre un peu au rabais, Il me semble qu'il est temps justement de changer les choses et ouvrir davantage les espaces publics du futur. Et pour cela, ces initiatives comme celle justement d'Internet qui peut prêter à sourire, et moi je ne suis pas du tout un défenseur de cette démarche du marché prédictif, mais là où elle va plutôt dans le bon sens, c'est qu'elle ouvre un espace public du futur à une diversité d'opinions qui, si justement elles interagissent les unes avec les autres, peut-être produire des résultats davantage probants. Et en tout cas, ça sera une machine à aspirer de la participation. Et de cette manière-là, peut-être, nous serions moins surpris lorsque les changements interviennent. Parce que le paradoxe, justement, de ces monopoles du futur si linéaires, c'est que, finalement, cela crée des surprises. Parce que quand l'Union soviétique s'effondre, ben, vous êtes surpris, puisque pendant 40 ans, on vous a dit qu'elle était tellement forte. C'est incroyable de dire, voilà, finalement, l'anticipation devrait nous prémunir contre les surprises. En fait, c'est l'inverse. L'anticipation professionnelle, institutionnalisée, crée les surprises. S'il y avait davantage de diversité, eh bien à ce moment-là, nous serions moins surpris. Mais si nous sommes habitués à regarder tous au même endroit la même chose, suivant en ayant la même grille de lecture, eh bien si les événements importants se déroulent là, eh bien nous ne pouvons pas les voir. Nous avons tous finalement les yeux rivés sur les mêmes questions. C'est ça aussi le problème. C'est que vous le voyez dans les journaux, par exemple, ce sont toujours les mêmes questions qui sont traitées. Et donc, il y a un effet d'aspiration. Et plus on parle d'une question, et plus les personnes qui vont prendre le relais le lendemain, etc., vont parler de cette question, puisque c'est la question dont tout le monde parle. Il y a un effet d'aspiration. Et en se concentrant sur une seule question, et bien vous ne voyez pas les autres arriver. Et vous êtes ensuite d'autant plus surpris.
Alors justement, peut-être avant de donner la parole à la salle, une question sur ces institutions dans lesquelles finalement s'élaborent ce que vous appelez donc les paroles du futur, puisqu'il y a là une analyse, vous faites une analyse assez précise justement de ces groupes d'experts en particulier, entre le monde universitaire et le monde politique, qui sont d'une certaine façon l'intermédiaire entre les deux, qui forment les think tanks, que ce soit d'ailleurs dans le cas des agences pour les agences de notation ou pour la politique internationale. Et finalement, la stabilité de leurs avis, elle est liée aussi aux conditions de la production du savoir, en fin de compte. C'est-à-dire que la sociologie là, donne un regard particulier sur tout ça. Peut-être pourriez-vous nous parler de ces groupes d'experts, justement, qui formulent ces paroles du futur ?
Alors, en effet, si on va dans un think tank... On pourrait le faire en France, mais admettons qu'on le fasse aux États-Unis, parce que finalement c'est un métier qui est beaucoup plus professionnalisé et là-bas, et que l'industrie justement du think tank est beaucoup plus développée. Donc c'est un terrain d'observation plus intéressant. On se rend compte de l'extrême homogénéité de ce milieu. Les personnes qui travaillent dans les think tanks ont été formées dans les mêmes écoles. Elles ont lu les mêmes livres. Elles appartiennent toutes plus ou moins à la même génération. Ce sont en règle générale tous des hommes. Enfin, en tout cas, sur les questions sécuritaires, ce sont en règle générale des hommes. Et cette communauté aussi, elle a un esprit de corps. C'est-à-dire que justement, finalement, il est bon de se serrer les coudes, parce que critiquer la parole d'un expert, c'est critiquer la parole de l'expertise. Et donc, si on commence à jouer à ce jeu-là, chacun devrait se remettre en question. Et ça, évidemment, pour des raisons de solidarité, pour des raisons qui sont qu'il faut finalement que l'entreprise se perpétue, cela n'a pas lieu. Et en règle générale, il vaut mieux avoir tort tous ensemble que, évidemment, tort de manière isolée. Mais même que avoir raison de manière isolée. Finalement, ça vous place un peu à l'extérieur de la communauté. Il faut finalement rester ensemble. Et aussi, justement, pour produire une parole qui a une valeur de modèle. Si chacun devait justement utiliser des méthodes différentes, cela discréditerait d'une certaine manière la marque de la fabrique de ce futur. Ces futurs doivent être finalement standardisés d'une certaine façon. C'est un produit. Et la personne qui l'achète, ce produit, ne doit pas être déstabilisée non plus. Et évidemment, du point de vue de la connaissance, c'est un système qui, à mon avis, a des limites. C'est un système qui s'installe dans des habitudes et dans une routine. Alors, en règle générale, les gouvernants ont tendance à dire, mais en France ou aux États-Unis, quand ils rencontrent des experts, et c'est toujours la même phrase, et elle prête vraiment à sourire et de dire, ah oui, mais essayez de m'étonner. Dites-moi ce à quoi je n'ai pas pensé et ce qui va me faire changer d'avis. C'est toujours la même phrase et c'est toujours la même surdité. C'est une dénégation enfin, quand ils disent cela. Ce n'est pas du tout ce qu'ils ont envie d'entendre. Et si, par hasard, ça avait lieu, ce rapport atterrit nécessairement et déposé nécessairement au fond du placard.
Donc, effectivement, en tout cas, on voit la crainte, d'une certaine façon, de l'incertitude qui est liée à ces prédictions et d'où le refus, d'une certaine façon, plus ou moins inconscient du changement. Ça, c'est un élément important. En tout cas, peut-être juste pour rebondir et pour donner la parole à la salle, on voit bien, il y a quand même un lien qu'on peut faire entre ce que vous dites et ce qu'on appelle, par exemple, les savoirs profanes, la science citoyenne, etc., c'est-à-dire l'idée qu'à un moment donné... La production institutionnalisée par des gens qui, en fin de compte, s'auto-désignent comme les références absolues, quelque part, pose problème, c'est-à-dire qu'il faut effectivement pluraliser les points de vue et donc se servir des expériences ordinaires, finalement, de gens mais qui ont une connaissance finalement assez superficielle des sujets, mais qui n'en sont pas moins aiguisés par, justement, la mise en commun, l'intelligence collective, ce que vous avez dit. Voilà, merci.
Merci à vous.